Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, maman va vous parler de grossesse, de bébé et surtout d'ostéopathie, son métier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des parents et des futurs parents. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler grossesse et de son suivi, mais en ostéopathie cette fois-ci. Qui dit numéro sur l'ostéopathie dit numéro un peu spécial, puisque, comme certains le savent sûrement, mon métier, c'est d'être ostéopathe. Pour cet épisode, il n'y aura donc pas d'interview avec un invité, puisque je vais faire les questions et les réponses. Je vais donc vous parler des changements que la grossesse entraîne dans le corps de la femme enceinte et ce que cela peut engendrer comme conséquence et petits tracas. Je vous expliquerai à chaque fois en quoi l'ostéopathie peut vous aider et vous soulager. On parlera ensuite du postpartum et on fera un petit point aussi sur l'ostéopathie pour le nouveau-né. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de parler ostéopathie pendant la grossesse, je vous propose déjà de faire un petit point sur l'ostéopathie d'un point de vue général. Parce que j'imagine que bon nombre d'entre vous savez sûrement qu'on va voir l'ostéopathe quand on a mal au dos, quand on a un lumbago, un torticolis, mal au genou, une cheville, ce genre de choses. Vous ne savez pas toujours bien ce que regarde et ce que fait votre ostéopathe concrètement. Donc, qu'est-ce que l'ostéopathie ? Eh bien déjà, il faut savoir que c'est une thérapie manuelle. C'est-à-dire que l'ostéopathe utilise uniquement ses mains pour travailler. Nous avons une approche globale, c'est-à-dire que nous considérons le patient dans sa totalité, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel par exemple. Le but de l'ostéopathie est de rétablir une mobilité optimale dans le corps, au niveau squelettique, articulaire, musculaire, viscéral, vasculaire, etc. Nous nous intéressons à toutes les structures de votre corps, car votre corps est un tout, et une petite tension, une petite dysfonction à un endroit, prenons par exemple votre genou, cela peut avoir des conséquences ailleurs, c'est-à-dire que si vous avez mal au genou, vous allez peut-être compenser un petit peu et finalement, quelques temps après, vous allez venir consulter votre ostéopathe, plus tellement pour votre genou qui ne vous gêne plus, mais pour la hanche de l'autre côté. C'est un exemple évidemment. C'est pour ça que parfois vous allez voir votre ostéopathe pour un mal de dos et que il ou elle va passer plus de temps sur votre ventre ou votre genou que sur votre dos. Et malgré tout, à la fin, votre dos est soulagé. Alors, qu'en est-il pendant la grossesse ? Eh bien, pendant la grossesse, nous le savons toutes et tous, le corps change beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire. Qui dit changement dit adaptation de votre corps pour laisser la place à ce bébé. Par exemple, au fur et à mesure que bébé grandit, que le ventre s'arrondit, les viscères vont devoir en quelque sorte céder un peu leur place. Non, ils partent pas en vacances, hein, mais tout ce petit monde va un peu se décaler pour laisser la place à l'utérus de grandir, et bébé aussi. On ne va pas se mentir, ça peut engendrer quelques petits désagréments, comme de la constipation, des reflux, des envies très très fréquentes d'uriner, des hémorroïdes, ce genre de choses. Pour ce qui est de l'envie très fréquente d'uriner, je suis navrée, mais il s'agit de quelque chose de mécanique. Bébé va finir par appuyer sur la vessie, ce qui va vous donner envie d'aller aux toilettes. Votre ostéopathe n'y changera pas grand-chose. Pour le reste, il peut agir en libérant certaines tensions au niveau viscéral, mais aussi en vous donnant des conseils pratiques. Votre ostéopathe pourra vous soulager les problèmes de constipation et d'hémorroïdes en travaillant au niveau viscéral dans le petit bassin, en libérant les tensions au niveau de l'utérus, de la vessie, des intestins, etc. Mais aussi en améliorant les échanges veineux et lymphatiques. Pour le reflux et les vomissements, c'est en travaillant au niveau de l'estomac, de l'œsophage et du diaphragme principalement que votre ostéopathe pourra agir. D'un point de vue anatomique, votre utérus est attaché à votre bassin par des ligaments. Cet utérus, c'est un petit peu comme une petite montgolfière qui est suspendue dans votre bassin. Donc il est suspendu au niveau du pubis, à l'avant, et au niveau du sacrum, derrière. À mesure que la montgolfière va se gonfler, et elle va gonfler, forcément, cela peut venir tirer au niveau de ces ligaments. Vous imaginez bien que des douleurs peuvent en découler pendant la grossesse, mais aussi pour le jour de l'accouchement, si ces ligaments sont, entre guillemets, hein, tendus. À votre avis, si on a déjà ces petits ligaments qui sont tirés, tirent un peu, il y a déjà des petites douleurs, le jour de l'accouchement, si on rajoute des contractions par-dessus, forcément, ça va être moins sympa, même si le jour de l'accouchement, je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir, mais notamment quand ce sont les ligaments postérieurs qui vont vers le sacrum qui tirent un petit peu, eh bien c'est à ce moment-là qu'on a des mamans qui après disent qu'elles ont des grosses douleurs, en général on dit au niveau des reins. Alors, juste pour info, les reins c'est bien plus haut que le bas du dos, mais c'est pas le sujet. En fait, voilà, on appelle ça accoucher par les reins. Ce sont des contractions qu'on ressent, non pas au niveau du ventre, enfin la douleur des contractions, pas tellement dans le ventre, mais dans le dos. Et bien souvent, les mamans disent que c'est beaucoup plus douloureux que les contractions dans le ventre. Donc on a parlé un petit peu voilà, des viscères qui vont se déplacer, des conséquences que ça peut avoir, les ligaments aussi bien sûr, qui suspendent l'utérus. D'ailleurs, petit aparté, si ces ligaments sont tendus chez une femme lorsqu'elle n'est pas enceinte, ces petites tensions pourront être à la source de douleurs dans le ventre ou dans le bas du dos pendant les règles. Donc, juste pour information, il n'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les règles, comme on peut parfois l'entendre. Si c'était normal, toutes les femmes auraient des douleurs. Or, c'est pas le cas. Certaines femmes n'ont aucune douleur. Donc, c'est ça la normalité. Bon, désolée, je m'égare un petit peu, mais voilà, je finis juste cet aparté sur les douleurs menstruelles en vous conseillant de consulter un ostéo si cela vous arrive, car cela peut être dû à des petites, voire des grosses tensions dans l'environnement de l'utérus. Et on ne va pas se mentir, les règles, ça revient quand même souvent, tous les mois, logiquement, et pendant un certain nombre d'années. Donc, autant essayer de s'en débarrasser, c'est quand même plus sympa. Je vous propose de revenir à nos moutons, la grossesse. Donc, on a dit viscères, utérus, mais qu'est-ce qui va s'adapter aussi? Votre bassin osseux. Vous avez sûrement déjà vu une femme enceinte, en fin de grossesse, elle a une démarche souvent un peu en canard, d'accord? Ce ventre qui pousse va aussi modifier votre posture, la cambrure lombaire va s'accentuer, les os du bassin vont petit à petit se préparer à l'accouchement sous l'effet des hormones pour que le bassin soit prêt à s'ouvrir et à laisser bébé sortir, d'accord? Toutes ces modifications peuvent entraîner des douleurs au niveau lombaire, au niveau du bassin, des douleurs de type sciatique, ce genre de choses. Là encore, votre ostéopathe pourra améliorer les choses par des manipulations sur la mobilité des os du bassin, des lombaires, etc. De plus, des exercices ou des étirements pourront vous être proposés afin de vous soulager sur du long terme. Car oui, la séance d'ostéopathie vous soulagera, mais si au quotidien vous ne prenez pas de bonnes habitudes, les problèmes risquent de revenir. Et ça, c'est vrai, mais tout au long de la vie, pas que pendant la grossesse. On va prendre l'exemple des douleurs lombaires, que ce soit chez la femme enceinte ou non. Si une personne va voir son ostéo et qu'ensuite elle continue de se pencher pour ramasser des choses par terre, qu'elle porte des charges lourdes sans penser entre guillemets à son dos, qu'elle continue d'être sédentaire, les douleurs lombaires risquent de revenir à plus ou moins long terme. Votre ostéopathe est là pour vous aider à prendre soin de votre corps sur du long terme. Et donc oui, cela demande aussi que vous participiez de façon active par des petits changements d'habitude au quotidien. À nouveau, je dérive un petit peu. Donc concrètement, quand consulter pendant la grossesse? Vous pouvez venir consulter quand des douleurs apparaissent, que ce soit une sciatique, des douleurs lombaires, des douleurs ligamentaires, ou tout trouble fonctionnel, constipation, vomissement, premier trimestre, ce genre de choses. D'ailleurs, à propos des vomissements, donc effectivement, sur les vomissements, l'ostéo, ça soulage quand même assez bien. Pour les mamans qui vomissent, une consultation pourra les soulager, réduire les vomissements. Peut-être que ce ne sera plus des vomissements, mais que des nausées, d'accord? Ça va pas forcément disparaître complètement, car dans les nausées et vomissements, il y a une responsabilité au niveau hormonal, on va dire. Et ça, le taux d'hormones qui monte, ben, en ostéo, on va pas le changer, évidemment. Si vous n'avez pas particulièrement de douleurs, vous pouvez venir en prévention. En général, on conseille une consultation à la fin de chaque trimestre, à peu près. Mais la consultation la plus importante pour moi, c'est celle qui est faite à peu près un mois avant terme, donc vers 37-38 semaines d'aménorrhée, d'accord, donc 3-4 semaines avant l'accouchement, ou la date d'accouchement prévue, pour que votre ostéopathe puisse redonner un maximum de mobilité à votre bassin en prévision du jour J. Il ou elle vérifiera aussi que votre périnée est souple et étirable. En allant voir quelqu'un de spécialisé dans la prise en charge de la femme enceinte, l'ostéopathe pourra vous expliquer comment effectuer le massage du périnée, mais aussi des petites techniques ou postures qui pourront vous aider pendant le travail. Le massage du périnée, pour information, ça réduit à peu près le risque de 50% d'avoir une épisiotomie ou une déchirure. Donc, mesdames, à vos massages du périnée pour éviter les points de suture.
En fonction des femmes, le nombre de consultations pendant la grossesse peut pas mal varier.
À minima, vraiment, le strict minimum que je vous conseillerais, c'est vraiment la consultation vers 37-38 semaines d'aménorrhée. Si jamais votre mutuelle ne vous rembourse pas, que c'est un peu compliqué, ou vous n'avez pas eu le temps, etc., celle-là, elle est vraiment très importante.
Dans l'idéal, si vous pouvez une consultation à la fin de chaque trimestre, après, vous faites comme vous pouvez, et surtout, vous faites en fonction de vos douleurs et de vos besoins, évidemment.
Donc, une fois l'accouchement passé, vous êtes en postpartum.
Alors, pourquoi venir consulter en postpartum ? Le postpartum, c'est une nouvelle période de grande adaptation physique, bien évidemment. Pour rappel, le jour de l'accouchement, vous perdez 8-9 kilos en quelques heures, entre le poids du bébé, le liquide amniotique, le placenta, etc. Autant dire que votre posture va se modifier de façon un peu radicale du jour au lendemain, et ça peut avoir certaines conséquences, comme des douleurs. Vous pouvez aussi souffrir de constipation ou d'hémorroïdes après l'accouchement. Ce changement physique s'accompagne de la chute d'hormones, de cette adaptation à la nouvelle vie de maman. Vous allez passer des heures avec bébé dans les bras, l'allaiter, lui donner le biberon. Et ça, ça peut engendrer des douleurs au niveau des trapèzes, des cervicales, et même parfois des tendinites au niveau du coude ou du poignet. De plus, même si l'accouchement mène à l'un des plus beaux moments de votre vie, la rencontre avec votre bébé,
il n'en reste pas moins une épreuve d'un point de vue physique, mais aussi psychologique. Que votre accouchement se passe par voie basse ou par césarienne, une consultation en ostéo est conseillée avant de commencer la rééducation du périnée, pour faire un bilan postpartum. Donc l'idéal est de revoir votre ostéopathe entre 4 et 6 semaines après l'accouchement à peu près. Bien évidemment, si vous avez de grosses douleurs, qu'elles soient au niveau des lombaires, du bassin, du coccyx ou autre, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous plus tôt. Si tout va bien, en général, il va y avoir une petite consultation en postpartum. Ça peut arriver qu'il en faille une ou deux de plus, ça va dépendre un peu des conditions
d'accouchement,
de comment vous êtes physiquement, etc. Par la suite, on conseille chez l'adulte en général une à deux consultations par an pour faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on va libérer les petites tensions au fur et à mesure, avant que la douleur n'apparaisse. Ce que j'explique toujours à mes patients, c'est que la douleur, elle apparaît quand il y a eu la petite tension de trop qui fait un peu déborder le vase. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'il n'y a pas de tension dans votre corps.
Donc, la douleur, c'est le signal d'alarme de votre corps pour que vous preniez enfin soin de lui.
Et alors, qu'en est-il pour bébé ? Parce que si l'accouchement peut être une épreuve physique pour la maman, il en est de même pour bébé. Imaginez un peu. Bébé est au chaud, au calme, dans sa petite bulle, à 37 degrés, en mode jacuzzi, depuis 8-9 mois. Et puis tout d'un coup, il y a des contractions qui arrivent. Et là, il est comprimé, régulièrement, pendant plusieurs heures. Après quoi ? Il doit passer par un tunnel, un peu étroit, on va pas se mentir, avant de sortir dehors, où il va devoir s'adapter au changement de température, apprendre à téter, il va devoir apprendre à digérer. Pas vraiment apprendre à digérer, mais il se met à digérer et ça entraîne des sensations nouvelles, c'est pas facile, il peut y avoir des maux de ventre, etc. Bref, tout un tas de choses qui le chamboulent un petit peu en un rien de temps.
Pour les mamans qui ont une césarienne, si c'est une césarienne faite en urgence, c'est un peu le même principe par rapport au travail avec les contractions, etc. Ensuite, il n'y aura pas le petit tunnel, mais on va aller chercher bébé à l'intérieur.
Ce qui n'est pas forcément plus agréable pour lui. Et puis quand c'est une césarienne programmée, il n'aura pas les contractions, mais c'est pareil, il va sortir du ventre de maman et ça fait quand même pas mal de changements pour lui. Donc l'ostéopathe est là pour aider bébé à s'adapter à tout ça et libérer toutes les petites tensions qui peuvent le gêner dans ses mouvements de tête ou bien sur le plan digestif, ce genre de choses. On conseille en général un rendez-vous vers 3-4 semaines de vie pour la plupart des bébés, sauf ceux qui ont des difficultés de succion. Dans ce cas-là, il faut emmener votre nouveau-né dès que possible afin qu'il puisse téter correctement et que votre allaitement se poursuive le plus sereinement possible. D'accord ?
Et évitez de mettre votre allaitement en échec dès le départ, avec pour conséquence, malheureusement, trop souvent, un arrêt prématuré de cet allaitement. Pour les problèmes de succion, il faut vraiment trouver un ostéopathe formé sur le sujet de la succion, voire même de l'allaitement, Et puis une consultation avec une consultante en lactation sera aussi très utile. Par ailleurs, depuis quelques mois, on entend beaucoup de choses sur les freins de langue avec deux camps qui s'affrontent. Ceux qui veulent les couper très souvent et ceux qui disent que cela ne sert à rien. Je vais essayer de vous préparer un épisode sur le sujet avec une invitée qui connaît bien le sujet, mais je voulais juste vous dire que oui, parfois il faut couper le frein de langue s'il empêche bébé de téter. Mais tous les freins n'ont pas besoin d'être coupés. De plus, pour travailler beaucoup sur cette problématique, je peux vous assurer qu'un bon travail en ostéo plus quelques petits exercices à faire à la maison permettent vraiment d'améliorer la succion sans pour autant couper ce frein à tout va.
Alors, quels sont les motifs de consultation principaux pour les bébés? En général, les 15 premiers jours, bébé il est plutôt paisible, il dort, il digère sans trop de difficultés, et puis vers 15 jours, 3 semaines, il va y avoir des petites coliques qui vont arriver. Il peut y avoir le reflux gastro-œsophagien ou RGO, il peut y avoir de la constipation, enfin bon, tous ces petits troubles digestifs qui apparaissent au bout de quelques semaines. Petit point sur les coliques du nourrisson. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des maux de ventre chez le bébé qui apparaissent en général vers 2-3 semaines de vie et qui peuvent durer jusqu'aux 4 mois de vie de bébé environ. En fait, comment ça se manifeste les coliques? Eh bien, tout simplement, bébé a beaucoup de gaz et il pleure de façon un peu... pas sans raison, mais on a l'impression en tout cas que c'est sans raison. Donc, votre bébé a des gaz et il pleure un peu sans raison. Vous avez vérifié, la couche est propre, il a mangé, il n'y a pas de roux qui coince, il est dans vos bras, il a dormi. Enfin, vraiment aucune raison a priori de pleurer et pourtant il pleure plus de 3 heures par jour. C'est un petit peu la définition de la colique du nourrisson, d'accord? En fait, quand votre bébé a des coliques, il a trop d'air dans ses intestins. Air qu'il a avalé en buvant son biberon, en tétant le sein évidemment. Tout cet air dans ses intestins vient dilater les intestins en quelque sorte, et à ce moment-là, les intestins vont spasmer pour essayer d'évacuer cet air. Ce sont ces spasmes qui sont douloureux. Comme nous, quand on a des crampes un peu au niveau intestinal, c'est pas très sympa. Eh bien, bébé peut en avoir un certain nombre, parce que tout simplement, certains avalent beaucoup d'air. Donc, dans le cas des coliques, l'ostéopathe va travailler au niveau viscéral, effectivement, mais va aussi regarder comment tête votre bébé, au niveau digestif haut, l'estomac, l'œsophage. Il y a beaucoup de choses à faire, et bien souvent, les parents, après, ils nous disent vraiment qu'il y a une accalmie au niveau des coliques. Pour le reflux, c'est pareil. Il peut y avoir un reflux qui est physiologique, d'accord? Certains bébés ont un reflux physiologique, et c'est comme ça, ils sont pas tout à fait finis, entre guillemets. Mais ça peut être aussi des petites tensions au niveau du diaphragme, de l'estomac, ce genre de choses, qui vont favoriser ce reflux, et le reflux va se calmer après la séance d'ostéo.
Votre ostéopathe pourra aussi vous montrer des petites techniques qui pourront soulager bébé en cas de maux de ventre. Alors, pour bébé, combien de fois va-t-il devoir venir en consultation ostéo?
Donc là, c'est vraiment très variable. Si tout va bien, vous allez faire une séance de bilan au départ, et puis une autre quelques mois plus tard, au moment d'acquisition du 4 pattes par exemple, ou bien de la marche. Mais pour les bébés qui ont de gros troubles digestifs, des troubles de succion, ça peut être plutôt une, deux, trois séances dans les premiers mois de vie. Pour ceux qui ont un petit torticolis ou une préférence rotatoire de la tête, c'est-à-dire qu'ils tournent plus souvent la tête d'un côté, il peut y avoir aussi plus de consultations. On ne va pas en faire 10, 1, 2, 3... pour régler ça et que le bébé tourne bien la tête des deux côtés afin d'éviter les déformations de la tête. Pour ceux qui arrivent déjà avec une plagiocéphalie ou une brachycéphalie, c'est la même chose. Donc la plagiocéphalie, c'est un aplatissement du crâne d'un côté à l'arrière, et la brachycéphalie, c'est un aplatissement global de l'arrière du crâne. Dans ces cas-là, en cas de plagio-brachy, le suivi pourra être aussi un petit peu plus long, d'accord? Parce que...
Il va souvent falloir d'abord résoudre le problème de mobilité de tête de bébé, c'est-à-dire l'aider pour qu'il tourne la tête dans toute son amplitude, c'est-à-dire jusqu'à l'épaule de chaque côté, mais aussi qu'il puisse correctement fléchir et faire une extension de tête, donc libérer vraiment toute la mobilité au niveau cervical. En plus de cela, on va travailler au niveau de toutes les sutures du crâne. Dans tous les cas, plus une plagiocéphalie ou une brachycéphalie sont prises en charge tôt, plus le traitement sera rapide. Une prise en charge en kinésithérapie en parallèle est plus que conseillée. Dans tous les cas, il n'est pas censé y avoir des consultations tous les mois pendant des mois et des mois. Par contre, au départ, il peut y avoir deux consultations assez proches, à 15 jours d'intervalle à peu près, afin de vraiment libérer la mobilité cervicale, et ensuite, peut-être encore une, deux, voire trois consultations maximum par rapport à la forme du crâne vraiment. Là encore, votre ostéopathe pourra vous donner des conseils de jeux, d'exercices, de positionnement pour que votre bébé tourne bien la tête des deux côtés de façon égale, entre guillemets, en temps. Par la suite, une consultation par an pour accompagner au mieux la croissance, un peu comme pour les adultes, enlever les petites tensions au fur et à mesure. Je crois avoir fait à peu près le tour de la question du suivi de grossesse en ostéo et en postpartum, avec un bon petit bonus sur la prise en charge ostéo pour le nouveau-né. Alors, comme vous le savez, en général, je finis toujours mon épisode en demandant à mes invités leurs petits trucs qui leur permettent de tenir dans leur journée de parents et de professionnels. Si je pose cette question à mes invités, c'est que personnellement, j'ai pas encore complètement trouvé ce petit truc, justement. J'avoue ne pas avoir le courage de me lever très tôt pour prendre un temps pour moi. Le soir, j'avoue que je suis fatiguée, donc depuis peu, j'ai repris le sport. Et puis, quand j'en ai l'occasion, je fais un peu de couture, parce que ça me détend. En plus de ça, c'est vrai que plutôt que de prendre un peu de temps tous les jours, ce que je préfère faire, c'est ponctuellement dans l'année, une ou deux fois par an en général, je pars en formation. Et pour ces formations, maintenant, je choisis des formations qui sont plutôt en province. Ça me permet de prendre 2-3 jours pour moi, loin des enfants, de la maison et du rythme du quotidien. Et ça ressource vraiment. Après, je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais j'ai la chance dans mon métier de pouvoir me former encore et encore sur des sujets en plus passionnants. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous repartez avec toutes les informations dont vous aurez besoin sur le sujet. Pour accompagner cet épisode de façon visuelle, je vous prépare plusieurs petits réels que je mettrai sur les réseaux, sur les petits conseils que je donne en général à mes patientes enceintes et pour les consultations nouveau-nés. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par message via les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ou bien par mail à mon adresse professionnelle alix.lagrange.osteo@gmail.com. Pour le prochain épisode, on restera sur le sujet de la grossesse et du nourrisson en ostéopathie, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir Catherine Ribus, qui est ostéopathe spécialisée en ostéopathie pédiatrique et gynécologique. Elle sera là pour nous parler de son association IJ, fondée il y a plusieurs années et qui offre des séances d'ostéopathie aux femmes et aux bébés, à Suresnes en région parisienne. Pour conclure cet épisode, je vous laisse sur ce petit moment de bonheur auditif que j'aime tant et qui nous est offert par Edouard. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos bouts de choux.
N'hésitez pas à vous abonner et à partager.